Marc chapitre 4 versets 18 à 20 où le Seigneur Jésus dit: Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit, un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Puisse, encore une fois, le Seigneur ajouter sa bénédiction à sa parole et nous aider à comprendre ce qui est écrit afin que nous puissions également l'appliquer à nous-mêmes et à nos vies. C'est ma prière en cette heure. Voilà encore une fois, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en ce sabbat attelés à la tâche de cette méditation que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, que j'ai intitulée « Le jardin du cœur », deuxième partie, comme vous l'avez déjà peut-être vu dans l'intitulé, à savoir « Semaille et désherbage ». Lors de notre méditation précédente sur cultiver le jardin du cœur, nous avions exploré les grandes lignes du langage symbolique agricole qui est employé dans la Bible pour parler de réalités spirituelles et morales supérieures. On a parcouru tout cela, on a exploré ce panorama de la parole de Dieu et le lien qui en est fait avec notre cœur. Nous avions vu tout le processus par lequel Jésus entretient son jardin, ou du moins entretient et nous appelle à coopérer dans la culture de son jardin. Nous avions exploré le défrichage, le labourage, l'ensemencement, les semailles, donc l'arrosage, le désherbage, et puis bien entendu, pour terminer, la récolte. Les fruits. C'est ça, entre parenthèses, j'avais dit les fruits. Ensuite, nous avons exploré quelques élargissements pour nous aider sur l'application de toutes ces déclarations imagées de la parole de Dieu. Et nous avions conclu en nous concentrant sur la responsabilité qui est la nôtre en tant que personne ayant chacun un cœur que nous devons entretenir pour le Seigneur. Conformément donc à cette parabole de Jésus du semeur dans Marc chapitre 4, mais que nous retrouvions également dans Matthieu ainsi que dans Luc, si je ne m'abuse. Et donc, lors de notre étude précédente, nous avions vu que notre esprit, à savoir nos pensées et nos affections, la combinaison de nos pensées et de nos affections, qui est symbolisée à de nombreuses reprises par la parole de Dieu, par notre cœur, et comme un jardin, notre esprit est donc comme un jardin qu'il nous faut cultiver et entretenir. C'est ce que nous avions vu donc dans la citation suivante, vers laquelle je me tourne une fois de plus, qui se trouve dans Éducation, dans le livre Éducation à la page 124 et paragraphe 3, nous avions ceci qui nous était dit par l'esprit de prophétie, je le lis. La culture du sol nous offre toutes sortes de leçons. Personne ne s'attend à ce qu'un terrain en friche produise tout de suite une moisson. Il faudra un travail assidu, tenace, pour préparer le sol, semer, mener à bien la récolte. Il en est de même pour les semailles spirituelles. Le jardin du cœur doit être cultivé. Son sol doit être retourné par la repentance, les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain doivent être arrachées, comme la terre autrefois envahie par les ronces ne peut être remise en valeur que par un travail diligent, les tendances mauvaises qui sont en nous ne peuvent être maîtrisées que grâce à des efforts persévérants accomplis au nom et avec la puissance de Christ. Voilà en quelques mots seulement un résumé de tout ce que nous avions exploré la dernière fois. Alors toutefois, il s'agit ici des grandes lignes. Et par la grâce de Dieu, nous voulons affiner notre recherche et notre étude et notre contemplation de ce sujet dans la parole de Dieu aujourd'hui, afin de véritablement pouvoir toucher du doigt les choses qui nous concernent vis-à-vis de ces principes généraux. Je vous invite donc à vous tourner vers le passage d'Ésaïe chapitre 27, versets 2 à 3. Nous allons passer en revue, je devrais dire, certaines des choses que nous avions lues la dernière fois, mais sur lesquelles nous ne nous étions pas réellement attardés. À savoir le passage d'Ésaïe chapitre 27, versets 2 et 3, nous fournissait cet encouragement suivant. Je le lis avec vous. Ésaïe chapitre 27, verset 2, il est écrit « En ce temps-là, on chantera ainsi sur la vigne excellente, C'est moi l'Éternel qui la garde. Je l'arroserai en tout temps. Je la garderai nuit et jour de peur qu'on ne lui fasse du mal. » C'est intéressant. Il s'agit d'un chant comme d'un cantique. Hein? Par exemple, peut-être que les Hébreux, ils avaient ce genre de chant où ils s'édifiaient en reprenant ce langage de Dieu. Donc, des fois, il peut y avoir des cantiques qui ont ce genre de tournure et ça peut nous encourager. Et donc, nous sommes encouragés par cette parole affectueuse de Dieu dans Ésaïe. Il dit « C'est moi, l'Éternel, qui la garde », c'est-à-dire qui garde cette vigne qui est utilisée comme une figure pour son peuple. Il utilise cette vigne pour symboliser son peuple. Il dit « Je garde ma vigne ». C'est moi qui la garde, je l'arroserai en tout temps. Et donc, dans le contexte de cette étude que nous parcourons sur le sujet du jardin de notre cœur, nous sommes rassurés à la pensée que Dieu se charge de ce jardin. Et à juste titre. Et toutefois, cet encouragement-là, par lequel j'avais envie et nous voulons commencer, hein, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'attelle à cette tâche solennelle de la culture de notre jardin, il promet de le garder en tout temps, mais c'est seulement sa part du contrat. La nôtre est exprimée dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Dieu fait une promesse, mais il ne peut la garder que si nous tenons également notre part du contrat, à savoir Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous l'avions d'ailleurs vu la dernière fois. « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Donc, quelle était la dernière étape de notre processus en 5 étapes que nous avions explorées la dernière fois? Si vous en trouvez d'autres, je suis prêt à les ajouter. C'était les grandes lignes, du moins. La dernière étape, c'était la récolte. Mais donc, Dieu dit, afin qu'il puisse avoir une récolte, afin que de ce cœur puissent procéder les fruits, les sources de la vie, hein, que nous soyons nous-mêmes comme une fontaine d'eau, une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle, en ayant le Saint-Esprit, eh bien il nous faut nous associer à Dieu, coopérer avec Dieu, à savoir garder notre cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Dieu dit, je la garderai, cette vigne en tout temps, je l'arroserai nuit et jour, c'est moi qui la garde, je l'arroserai de tout temps, je la garderai nuit et jour, je crois qu'il est marqué à la fin de ce verset 3. Mais il dit également à nous, duquel cœur ce jardin est, il dit, garde ton cœur toi aussi. Donc il dit, je garderai ma vigne, et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Donc qui est-ce qui fait quoi? Les deux. Ce doit être nous et ce doit être Dieu. Comme on le voit d'ailleurs, et cela rejoint parfaitement les paroles de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Nous voulons être encouragés, mais la parole de Dieu ne fait pas que nous fournir des encouragements. Elle nous enjoint ce devoir solennel. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est écrit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et cela rejoint d'ailleurs ce que j'aurais voulu mentionner la dernière fois, à savoir que dans toute cette activité de l'entretien de notre jardin, de la culture, de cette activité consistant à cultiver le jardin de notre cœur, il y a également des jardiniers qui sont employés par Dieu pour semer, arroser, désherber. Ce sont les serviteurs de Dieu, et je le lis ici, je vais élargir cette lecture pour que nous puissions obtenir les bénéfices que nous étions censés avoir dans la première étude. Je lis 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4. Car lorsque l'un dit « pour moi je suis de Paul » et l'autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels ? Qui est donc Paul et qu'est Apollos ? Sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6, que dit l'apôtre Paul ? J'ai planté, à planter ou semer, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Vous voyez ici, qu'est-ce que c'était ? Dieu dit, je la garde en tout temps, c'est moi l'Éternel qui garderai la vigne, je l'arroserai en tout temps. Hein ? Dieu donne l'accroissement. Mais il a également des jardiniers, dont notamment l'apôtre Paul et Apollos en étaient. Verset 7, c'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu qui nous donne l'accroissement, Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. Car, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et donc vous avez ici un message sur à la fois qui nous sommes et ce que nous sommes vis-à-vis de l'effort de Dieu. Regardez, ce message est tout particulièrement, premièrement je devrais dire, applicable aux serviteurs, aux ouvriers qui travaillent pour Dieu dans son jardin, dans sa vigne. Et l'apôtre Paul disait, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais vous voyez l'esprit de prophétie qui emploie et utilise cette parole du verset 9 comme étant également applicable à chaque croyant. Donc nous sommes tous et nous devons tous être ouvriers avec Dieu. À savoir, nous devons tous coopérer avec Dieu et nous sommes le champ de Dieu. Le champ, l'édifice de Dieu, donc cela nous renvoie vers ses paroles au sujet de l'Église qui est comme un édifice que l'on construit sur le fondement de Jésus-Christ et des apôtres et des prophètes. Hein, comme c'est marqué d'ailleurs au verset 11, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Donc, nous voyons que Dieu nous donne cet encouragement qu'il gardera sa vigne. Mais il nous dit que nous avons également une responsabilité en tant qu'ouvriers avec Dieu pour garder notre propre cœur plus que toute autre chose. Il nous fait donc la merveilleuse promesse qu'il veillera sans cesse sur sa vigne, mais nous recevons également pour ordre et exhortation d'être ouvriers avec Dieu, soit de coopérer avec Dieu. Et cet appel-là, vous le trouvez réitéré, nous le trouvons réitéré dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4 et verset 9. Où il est écrit le suivant. Deutéronome chapitre 4 verset 9. Hein, il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et maintenant, que nous dit-il ? Seulement, prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie, mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Que dit-il ? Prends garde à toi, nous avons vu, garde ton cœur, mais maintenant, que dit-il ? Prends garde à toi et garde avec soin ton âme, hein, notre cœur, notre jardin. De peur que quoi ? De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie. Nous avons ici un élément nouveau, ou plutôt, il n'est pas nouveau, mais il fait écho au langage que nous avions d'ailleurs trouvé dans la parabole de Jésus et qui renferme l'essence de notre sujet. Qu'est-ce que c'était que nous avions vu dans Marc chapitre 4 verset 18? Nous allons y revenir tout de suite. Marc chapitre 4 verset 18, c'était notre lecture biblique. Marc chapitre 4 verset 18 et 19 principalement nous disait le suivant. Marc chapitre 4, verset 18. Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais d'autre part, vous avez ceux qui reçoivent la semence dans une bonne terre. Jésus nous dit, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit, un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Qu'est-ce que c'est qui nous était donné dans Deutéronome chapitre 4 qui vient élargir cette vocation qui est la nôtre vis-à-vis du jardin de notre cœur? Il dit, prends garde à toi, garde avec soin ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et donc, qu'est-ce que Jésus nous a dit afin de nous aider à comprendre ce qui peut nous faire oublier les choses que nous avons vues de telle sorte qu'elles sortent, de telle manière qu'elles en viennent à sortir, pour ainsi dire, de notre cœur? Ce sont, je le cite, les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses. Jésus disait que ces choses, en survenant, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais alors, nous voulons nous poser la question et explorer davantage afin de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque la parole est étouffée. N'est-ce pas, on va le voir, hein, n'est-ce pas que la parole de Dieu est oubliée? Si la parole de Dieu est étouffée de telle sorte qu'elle ne porte plus de fruits, c'est-à-dire elle devient infructueuse, n'est-ce pas parce qu'elle est oubliée? À savoir, si nous nous souvenions de la parole de Dieu, serait-elle infructueuse? Et le fait qu'elle soit infructueuse, n'est-il pas lié au fait qu'elle ait été oubliée? C'est d'ailleurs ce que nous voyons. Car ces deux passages que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 4 et Marc chapitre 4 et Marc chapitre 4 également versets 18 à 19, ils nous rappellent le passage de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 vient faire le lien entre ces deux passages de telle sorte que vous voyez que la parole de Dieu elle-même établit ce lien. Nous le voyons ici. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, je commence au verset 22, jusqu'au verset 25, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. » Il y a ici certains non-dits dans ce passage qui ont été dits dans le passage de Marc, et certains non-dits dans le passage de Marc qui ont été dits dans le passage de Deutéronome. Mais lorsque vous rejoignez tous ces passages ensemble, vous voyez que, en réalité, l'auditeur oublieux, c'est précisément le cas de Marc chapitre 4, versets 18 à 19, à savoir celui de la semence tombée parmi les ronces. Car en effet, qu'est-ce qui pousse l'auditeur de la parole à oublier la parole? Qu'est-ce qui pousse une âme à entendre la parole, mais à oublier la parole? C'est ce que Jésus disait. C'est les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses. Voilà les choses qui, survenant, étouffent la parole de Dieu. Voilà les choses qui provoquent et qui fait que nous oublions la parole, parce que ces choses prennent le dessus. Elles prennent le dessus dans nos affections et nos pensées. Hein, rappelez-vous, nous avons vu que le corps, le cœur, c'est une combinaison de nos pensées et de nos affections. Eh bien, lorsque ces choses poussent dans notre cœur, elles prennent le dessus sur la parole de Dieu, sur l'amour de Dieu en nos cœurs, et nous oublions la parole, et la parole ne porte pas de fruits. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous ne sommes pas résolument incrédules, hein, comme c'était marqué dans, je vous y renvoie dans Marc chapitre 4, il me semble, vous allez voir, Marc chapitre 4, c'était la première partie tombe le long du chemin, et les oiseaux viennent et mangent tout. Et Jésus avait expliqué que c'est une personne qui, comme c'est marqué ici, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Ils n'ajoutent aucune foi et donc la chose qu'ils ont entendue est totalement oubliée. Ils n'ont aucun intérêt pour la parole. C'est ceux qui reçoivent la parole le long du chemin. Et donc, si nous ne sommes pas complètement incrédules, nous ne rentrons pas dans cette catégorie-là. Mais si nous ne sommes pas résolument incrédules et que nous ne possédons pas non plus le genre d'enthousiasme éphémère qui est présenté dans la deuxième catégorie, à savoir celle du verset 16 et 17, où la graine, la semence, lève, mais ensuite, lorsque la chaleur intense vient brûler cette graine, elle n'a pas de racine et donc elle meurt. Ça, c'est ce que j'appelle un enthousiasme éphémère. Donc, si nous n'avons pas cette chose-là, et que nous ne sommes pas non plus profondément incrédules, que se passe-t-il? Eh bien, la majorité des obstacles qui s'opposeront à notre marche chrétienne se trouveront dans cette troisième catégorie que nous sommes ici en train d'explorer dans les versets 18 et verset 19. Cette troisième catégorie qui est directement liée à l'auditeur oublieux. Mais est-ce que Jésus, d'ailleurs, en explorant cela davantage, est-ce que Jésus a fait mention de ce danger sérieux qui nous guette en lien direct avec son retour maintenant si proche? Tournez-vous avec moi vers le passage de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Luc 21, verset 34, nous lisons « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il, ce jour, surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. » Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez, pourquoi? Et prenez garde à vous-même, rappelez-vous, prenez garde à vous-même. Que disait-il dans Deutéronome chapitre 4? Prends garde à toi et garde avec soin ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et Jésus disait quoi? Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Et quoi? Et que ce jour-là, hein, ce jour, dont il parlait, ou de la fin de son retour, hein, de son retour invisible, du temps où le temps qui surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la terre, le temps de la fin du temps de grâce, c'est bel et bien de ce temps-là dont il parlait ici, et il disait, prenez donc garde de peur que ces choses-là, ces distractions, qu'est-ce que c'était? Les inquiétudes de cette vie, et ici nous allons pouvoir boucler la boucle, parce que nous avions vu les expressions qui étaient données dans notre passage de Marc chapitre 4, à savoir, quelles étaient-elles? Les soucis de ce monde, et ici, c'est la débauche, l'ivronnerie et les inquiétudes de cette vie, n'est-ce pas? Et dans Marc chapitre 4, voilà ce que Jésus disait, si vous rejoignez tous ces passages entre eux, vous voyez quelque chose de totalement complémentaire qui nous aide à cerner bel et bien notre danger. La séduction des richesses, les passions pour les autres choses et les soucis de ce monde. Et ces choses-là sont ici reliées, sauf que Jésus parle de quelque chose d'autre ici. Il dit l'ivrognerie. La débauche, on peut se dire, nous ne sommes pas débauchés. Les hommes du monde sont débauchés, mais peut-être si nous pratiquons la tempérance, nous nous disons, nous ne sommes pas débauchés. Nous ne rentrons pas dans cette catégorie-là de personnes qui font la fête, etc. Nous ne sommes pas ces choses-là. Et si tant est que nous ne sommes pas inquiets, si nous ne permettons pas aux inquiétudes de ce monde d'accabler nos pensées, peut-être que nous ne rentrons pas dans cette catégorie-là. Ou peut-être que nous y rentrons. Donc nous examinons. Et quel est le point numéro 2? L'ivrognerie. L'ivrognerie. J'aimerais que nous puissions examiner ici la parole de Dieu. Car vous voyez ici que, premièrement, un cœur appesanti, c'est un cœur où les mauvaises herbes empêchent la croissance de la semence de la parole de Dieu. Le cœur est appesanti, il est rempli de ces ronces par quelque chose? La débauche, l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie. Et si vous faisiez avec moi le lien entre Marc chapitre 4 et Luc chapitre 21, vous voyez, si vous étudiez bien, vous voyez que les expressions, les passions pour les autres choses et l'ivrognerie soulèvent un problème commun qui est en réalité extrêmement applicable à cette dernière génération dont nous faisons partie. Car si vous regardez au verset 32, Jésus disait « Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. » Quelle génération? Celle qui existerait lorsque le figuier pousserait de nouveau, à savoir, il ne s'agit d'autre que de la nation d'Israël qui est renée de ses cendres en 1948. Et donc, dans cette génération, depuis 1948 jusqu'à notre temps, il s'agirait de la dernière génération. Et cette génération dans laquelle nous vivons est guettée par ce danger de l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie, la débauche, de telle sorte que les cœurs soient oublieux de la parole de Dieu. Hein? Il se peut que de nombreuses personnes soient croyantes, mais que la parole de Dieu est étouffée par les soucis de cette vie, les inquiétudes du monde, la débauche, l'ivrognerie. Mais alors, quelle est cette ivrognerie? C'est ça que nous voulons explorer ici. Comment est-ce que, en tant que croyant, et dans quel sens, en tant que croyant, nous pouvons avoir notre cœur appesanti de telle sorte que la parole de Dieu n'a pas d'impact sur notre vie à cause de l'ivrognerie ou des inquiétudes de notre vie, des inquiétudes de cette vie. Donc, les inquiétudes de cette vie, vous pouvez le comprendre. Si vous êtes inquiet de ce que vous allez pouvoir manger, inquiet de comment vous allez pouvoir vous nourrir, inquiet de comment vous allez pouvoir vivre, cette inquiétude va vous pousser à chercher, à travailler autant que possible pour pourvoir à vos besoins et vous serez sans cesse focalisé sur ce que vous pouvez faire pour survivre. L'inquiétude de cette vie va vous ronger, va accaparer vos pensées et vos affections. Parce que vous allez vous affectionner aux choses qui peuvent vous faire survivre. Les richesses, la séduction des richesses. On voit ici le lien entre les choses. Et qu'est-ce que c'est maintenant l'ivrognerie? Est-ce qu'il s'agit, frères et sœurs, littéralement d'une ivresse d'alcool? Ou s'agit-il d'autre chose? C'est ce que nous voulons explorer ici pendant quelques instants, notamment en nous tournant vers le passage d'Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 13, où nous voyons le suivant. Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 13. Donc, nous explorons la question des semailles, ou des semis, et du désherbage, mais pour en comprendre l'application, eh bien, nous voulons explorer la parole de Dieu. Et ensuite, lorsque nous comprenons chacun de ces éléments, nous voyons ceci. Il s'agit des semailles. Nous en avons déjà vu à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 3 d'ailleurs, au sujet des serviteurs, qu'ils sèment la parole de Dieu. Ils devraient, la pure parole pour nous nourrir. Et le désherbage, c'est ce que nous sommes ici en train de voir. Parce que le désherbage, l'esprit de prophétie nous parlait de mauvaises habitudes qui s'enracinent et qui empêchent la croissance de la parole de Dieu. Quelle est donc cette ivresse? Je lis dans Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 13, le suivant, où il est écrit « Soyez étonnés et stupéfaits, soyez aveugles et éblouis, ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Aussi, toutes les visions sont devenues pour vous comme la parole d'un livre scellé, qu'on donnerait à un homme sachant lire en lui disant « Lis ceci !» et qui répondrait « Je ne puis, car il est scellé !» Ou qu'on donnerait à un homme ne sachant pas lire en lui disant « Lis ceci !» et qui répondrait « Je ne sais pas lire !» Et le verset 13, « Et le Seigneur dit « Puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des âmes à cause de cela, etc. » Est-ce que vous voyez ici l'ivresse dont il s'agit, dont Dieu parle? Il ne s'agit pas forcément d'une ivresse d'alcool. Quoique cela puisse être cela, cela n'est pas exclu, mais il ne s'agit pas que de cela. Et dans ce monde aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une ivresse qui n'a pas du tout besoin d'être alcoolisée. Une ivresse qui est liée à cette passion pour les autres choses qui finit par étouffer la parole semée de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que nous voyons ici? Que dit-il? Regardez, soyez aveuglés, soyez stupéfaits. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais non par la boisson forte. Donc, Dieu regarde ici, il a cette scène devant les yeux et il nous la présente dans sa parole et il dit, regardez-les. Ils chancellent, mais ce n'est pas à cause de l'alcool. Dieu nous montre une scène symbolique et nous voulons en saisir le sens pratique. De quelle ivrognerie il s'agit, de telle sorte que nous puissions être pris par surprise par la fin du temps de grâce. Lorsque Jésus se lève et prend son royaume, comme c'est marqué dans Daniel chapitre 12, verset 1. Il s'agit d'un esprit d'assoupissement. Un esprit d'assoupissement qui fait que la parole de Dieu n'a aucun impact dans nos vies. Ça ne veut pas dire que nous n'entendons pas la parole de Dieu, cela ne veut même pas dire que nous n'écoutons pas la parole de Dieu, cela veut simplement dire que la parole de Dieu est étouffée, selon la parabole, par les passions pour les autres choses, à savoir, comme Jésus le dit dans Luc chapitre 21, l'ivrognerie. C'est-à-dire quelque chose qui crée en nous une ivresse de telle sorte que nous n'avons plus tous nos sens. Nous n'avons plus tous nos sens. Et aujourd'hui, dans ce monde moderne de divertissement, les gens rendent souvent aujourd'hui témoignage, sans pour autant que ce soit lié à la religion, ils rendent témoignage du fait que le haut degré de divertissement auquel nous sommes exposés est semblable à une ivresse, un manque de contrôle, une intempérance profonde. Et nous voyons ici le sens de cette passion pour les autres choses dont Jésus parlait. Une passion qui se traduit par un esprit d'assoupissement, un esprit de passivité, un esprit de langueur, de léthargie, par lequel Dieu dit, voilà, il a fermé les yeux aux prophètes, voilé les têtes aux voyants. Pourquoi ? Ce n'est pas de la part de Dieu un acte arbitraire. On pourrait se dire, on ne comprend pas, on lit la parole de Dieu. Mais si nous regardons la parole de Dieu à la lumière des événements présents, de la société dans laquelle nous vivons, nous comprenons. Parce que le prophète qui se donne à cette ivrognerie, qui se donne à cet esprit d'assoupissement, il n'est plus en mesure d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que les innombrables voix du monde étouffent la voix de l'Esprit de Dieu, étouffent donc la parole de Dieu, cette semence qui est censée croître, pousser, produire du fruit. Mais maintenant, parce qu'il y a tellement de choses qui distraient l'attention, qui distraient les pensées, qui distraient nos affections, la passion pour les autres choses, cela devient comme une ivrognerie et nous ne voyons plus clair. Et ceux qui étaient jadis prophètes, voyants, ceux qui étaient serviteurs, ceux qui avaient des visions, maintenant n'arrivent plus à lire. Et il dit cette chose, il la présente comme si on leur montrait un livre et disait « je ne sais pas lire ». Maintenant, la parole de Dieu vient à nous et nous disons « il n'y a rien pour moi ». Vous comprenez ? C'est le problème de l'Esprit de Dieu dont la voix est étouffée à cause des distractions. La voix est étouffée, la parole de Dieu est étouffée. La parole à travers laquelle l'Esprit de Dieu, normalement, nous parle. Et donc, j'ai marqué que cet esprit d'assoupissement, cette ivresse spirituelle est liée à la passion, à savoir l'intérêt pour les autres choses. Les autres choses. Quelles autres choses? Des choses autres que Dieu, par exemple. Ou bien, des choses qui sont peut-être en elles-mêmes innocentes, mais qui prennent le dessus dans nos affections par-dessus Dieu et le supplantent, comme d'ailleurs jadis les idoles des païens supplantaient le vrai Dieu. Les idoles des païens se mettaient et leur avaient été fournies par le diable pour prendre la place du vrai Dieu. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin d'idoles, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de statuettes. Le diable, tout ce qu'il veut faire, c'est que la passion pour les autres choses, des autres choses, prennent le dessus sur notre intérêt et notre passion, notre amour pour Dieu. C'est tout ce qui est requis. Et qu'est-ce qui est le fruit, qu'est-ce qui découle comme conséquence naturelle d'une telle ivrognerie? Eh bien, c'est ce que nous lisions ici au verset 3. C'est un peuple qui s'approche de moi de sa bouche et qui m'honore de leurs lèvres, mais dont le cœur est éloigné de moi. Je suis en train de paraphraser, c'est ce que Jésus, Dieu dit ici, et ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, ce qui ressort d'une religion, d'une telle foi, d'une telle marche chrétienne, d'une telle ivrognerie, c'est une religion des formes. Parce que vous voyez qu'il s'agit encore d'un peuple qui est ouvertement croyant, ouvertement chrétien, hein, pour ce temps dans lequel nous vivons. Il s'agit de chrétiens, mais où le cœur, une religion des formes, où le cœur n'y est pas. Qu'est-ce que c'est ? Leur cœur. Ils viennent à moi, ils m'adorent de leur bouche, de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Le cœur est éloigné de Dieu. Rappelez-vous, c'est ce que nous avions vu dans Deutéronome chapitre 4, verset 9, où il disait, prends garde avec soin ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et donc, lorsque les choses que nous avons vues, lorsque les choses de la parole de Dieu que nous avons absorbées maintenant sont étouffées par les inquiétudes de cette vie, la débauche, l'ivrognerie, la passion pour les autres choses, elles sont étouffées par cela, eh bien, c'est comme si elles sortaient de notre cœur et notre cœur est éloigné de Dieu. Vous voyez toutes ces équivalences ici que la parole de Dieu nous montre, non pas pour uniquement parler de choses négatives, mais pour que nous puissions vraiment identifier le problème. Lorsque nous identifions le problème, c'est là que Dieu peut réellement nous aider et que toutes les provisions de Dieu dans le plan de notre salut prennent sens. Elles commencent à prendre toutes leurs dimensions. Nous commençons à en saisir l'impact. Alors que, comme l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 7, avant que la loi vienne, le commandement vienne, il allait bien, tout se passait bien. Mais lorsque l'impact pacte réel de la loi de Dieu, le montrant comme un pécheur est venu à lui, alors il a senti son besoin, alors il a réellement trouvé Jésus-Christ comme son sauveur. Et donc, lorsque le cœur est éloigné de Dieu, toutefois, dans cette religion de forme, nous poursuivons les apparences religieuses chrétiennes, comme c'est présenté ici dans ce verset 13. C'est l'ivresse d'un auditeur oublieux. Qu'est-ce que c'est un auditeur oublieux? Parfois, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi oublieux? Eh bien, c'est la question d'un auditeur oublieux qui préfère oublier les choses saintes afin de s'attacher et de s'attarder sur les choses du monde et s'enivrer de l'esprit du monde. Pourquoi? Eh bien, selon l'esprit, nous n'avons pas envie, mais la chair le veut, la chair le réclame. Et puis, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, frères et sœurs, de s'enivrer de l'esprit du monde plutôt que d'être rempli de l'esprit de Dieu. Parce que l'un ne demande pas d'effort, l'un va dans le sens de notre nature humaine dépravée, l'autre demande une contradiction de notre chair. Afin de pouvoir vivre selon l'esprit, il nous faut crucifier la chair et ses convoitises. Et donc, par nature, nous faisons l'un plus facilement que l'autre. C'est donc, bel et bien, frères et sœurs, toute l'équivalence, hein, cet auditeur oublieux qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, cette semence tombée parmi les ronces qui en est donc étouffée. Maintenant, j'aimerais que nous puissions, pendant les instants qui nous restent, nous attarder sur les conseils que Jésus nous donne pour parer à cette atmosphère d'assoupissement profond. D'une part, nous voulons réaliser que cet assoupissement véritablement coïncide avec les prédictions de Jésus. Nous voulons vraiment identifier notre cécité spirituelle, notre profonde léthargie, nous voulons le saisir. Hein, souvent, je suis là, je me dis, mais pourquoi je fais tout ce que je fais? Les gens sont tellement endormis. Et parfois, moi aussi, je me dis, mais là, j'ai juste envie de dormir. Spirituellement dormir. C'est de cela dont nous parlons. Nous voulons juste nous laisser emporter par ce courant impétueux du monde qui va dans une seule direction, c'est celle de la perdition. Nous voulons simplement nous laisser porter. Et parfois, moi, je suis là, mais pourquoi je fais ça pour les gens? Ils en ont absolument rien à faire de ce que je fais. Et donc, il faut continuer. Il faut continuer à rester en vie spirituellement. Et nous voulons, pour cela, lire la parole de Dieu et écouter les conseils que Jésus nous donne pour contrecarrer cette atmosphère d'assoupissement profond. Hein? Qu'est-ce que c'était dans Isaïe que nous avons lu? L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'amour de la vérité. Et donc, il nous envoie un esprit de tromperie. Un terrible esprit de tromperie. Mais si nous voulons aimer la vérité plus que ces autres choses, alors nous pouvons nous-mêmes nous délivrer, nous émanciper de cet esprit d'assoupissement. Nous pouvons le faire, mais il nous faut déployer des efforts que nous n'avons pas déployés jusqu'ici. Autrement, nous ne serions pas si spirituellement apathiques. Nous ne le serions pas. Et j'aimerais donc vous lire cette citation de Mystère de la guérison à la page 392, paragraphe 3. Le ministère de la guérison, page 392 et paragraphe 3, et ensuite page 393, premier paragraphe, où il y a une seule phrase qui vaut le coup. Par rapport à ses passions pour les autres choses dont Jésus parlait et qu'il reliait directement à la semence de la parole de Dieu qui devient infructueuse. Donc, où simplement nous avons la parole de Dieu, nous gardons les formes, mais elle ne produit pas de fruits. Donc nous avons l'apparence de la piété, mais sans la force de la piété. C'est vraiment de cela dont Jésus il parlait. Il disait, dans cette troisième catégorie, avant de parler de la bonne catégorie où la semence de la parole de Dieu produit son fruit, porte ses fruits, est vraiment fructueuse, il a parlé de cette troisième catégorie. Quelle est-elle? C'est celle de Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, où il est question de l'apparence de la piété. C'est la condition dans laquelle nous tomberons directement, inévitablement, si nous ne déployons pas des efforts vigoureux pour remonter le courant du monde. Frères et sœurs, c'est inévitable, nous tomberons dans cette condition qui est celle d'une religion des formes. Et donc, vis-à-vis de cette religion des formes, la passion pour les autres choses a pris le dessus sur l'amour de Dieu, nous aimons les plaisirs plus que Dieu, comme c'est marqué d'ailleurs dans 2 Timothée chapitre 3 verset 4, je crois, ils aiment la volupté plus que Dieu. Dans cette génération dans laquelle nous vivons, cette société, ce courant allant vers cette direction, nous voulons lire cette citation de ministère de la guérison, page 392, paragraphe 3. Quel est le conseil que Jésus nous donne ici? Nous devons nous détourner des mille objets qui sollicitent notre attention. Il est des questions qui absorbent notre temps et demandent des recherches, mais qui n'aboutissent à rien. Laissons de côté ces détails comparativement insignifiants et portons nos regards et nos efforts sur des sujets d'un ordre plus élevé. Qu'est-ce que c'est? Nous devons nous détourner littéralement de mille objets qui sollicitent notre attention. Et en anglais, littéralement, c'est nous devons nous détourner de mille sujets qui détournent notre attention. Qu'est-ce que c'est? Des sujets. Mille et un sujets qui sollicitent notre attention. Et ensuite, vous regardez ceci, vous écoutez cela. Et cela vous prend un temps énorme. Cela nous prend un temps énorme. Et donc, l'esprit de prophétie nous dit, déjà dans le temps de Sir White, il nous disait, nous devons nous détourner des mille objets qui sollicitent notre attention. Pourquoi? Parce que ce sont les choses qui étouffent la parole de Dieu. Et donc, on peut se dire, ouais, c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est passionnant, ça c'est passionnant. La passion pour les autres choses, ensuite, va supplanter la passion pour Dieu, l'amour pour Dieu, de telle sorte que ensuite, l'amour pour Dieu redevient juste comme un son de l'arrière-plan. Ça, c'est juste une religion de forme, mais notre cœur est autre part. J'avais parlé il y a quelques temps, j'avais présenté un sujet sur le détournement du cœur. Je l'avais beaucoup appliqué à l'amour des parents pour leurs enfants. En réalité, le détournement du cœur, cela peut arriver à n'importe qui, si tant est que nous permettons à l'amour du monde de supplanter notre amour pour Dieu. Qu'est-ce que c'est? Donc, il est des questions qui absorbent notre temps et qui demandent des recherches, mais qui n'aboutissent à rien. Nous avons besoin de discerner ces mille et un sujets, pour ainsi dire, que le diable, à travers lesquels, je devrais dire, le diable cherche à accaparer notre temps et notre attention, absorber notre temps, de telle sorte que nous n'avons plus de temps pour penser à Dieu. C'est ça qu'il cherche à faire. Il cherche à nous dérober notre temps pour que le temps que nous aurions pu passer à méditer, à lire, simplement à nous arrêter, nous le consacrions à des choses qui n'aboutissent à rien. Avez-vous vu cela aujourd'hui? Vous pouvez lire, vous pouvez même lire des choses qui n'aboutissent à rien. Vous pouvez surtout visionner des choses qui n'aboutissent à rien du tout. Et c'est le cas dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que la technologie a une telle emprise sur nous que nous n'avons plus la vigueur morale pour nous en dépêtrer. Et c'est pour cela qu'il faut véritablement suivre et obéir au conseil de Jésus dans l'esprit de prophétie. Nous devons nous détourner de mille objets qui sollicitent notre attention et porter nos regards et nos efforts sur des sujets d'un ordre plus élevé. Quels sont-ils ? Ceux de la parole de Dieu. Et notamment, rappelez-vous ce passage des psaumes qui nous dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». C'est-à-dire que des fois, simplement s'arrêter, le silence nous sera plus profitable aujourd'hui, souvent, si nous sommes déjà nourris de la parole de Dieu, le silence nous sera plus profitable que de nous laisser absorber et notre attention par mille et un sujets qui n'aboutissent réellement à rien. Il s'agit également, frères et sœurs, il s'agit indéniablement d'une question profonde de tempérance, parce que ces choses peuvent être bonnes, mais si, et innocentes en elles, et utiles, mais si nous les lions bout à bout, elles absorbent notre temps de telle sorte que toutes ces choses qui auraient pu être utiles et bonnes en elles-mêmes, séparées les unes des autres, jointes bout à bout, absorbent notre temps, accaparent du temps que nous aurions dû et pu consacrer à Dieu. Et je lis ici cette phrase, dernière phrase, qui nous dit « Nous devons ressentir la responsabilité de donner à notre âme les aliments qui nourrissent et stimulent la vie spirituelle. » Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'équivalent vis-à-vis des semailles et du désherbage ? Eh bien, lors du désherbage, il est question d'arracher les choses qui ont été semées. Eh bien, afin d'éviter d'avoir tant de choses qui sont semées dans notre champ, dans notre jardin, et qui étouffent les plants, la plante de notre vie spirituelle, eh bien, nous devrions chercher à n'y semer que des choses, des aliments qui nourrissent et qui stimulent la vie spirituelle. Et donc maintenant, il s'agit bel et bien d'une activité consciente dans laquelle nous nous engageons de telle sorte où nous prenons garde à notre cœur comme nous prendrions garde à notre jardin. Nous faisons en sorte d'éviter d'y semer des choses que nous ne voulons pas voir grandir. Et donc, il s'agit bel et bien d'une relation avec Dieu où nous endossons notre responsabilité. En contraste avec une relation où nous défaisons de notre responsabilité. Lorsque nous suivons l'esprit du monde, nous nous laissons emporter par le courant, c'est une relation avec Dieu où nous ne sommes plus responsables, nous sommes irresponsables. Mais si nous agissons de manière responsable, eh bien, nous prendrons garde à ce que nous semons, de telle sorte que nous n'aurons pas des efforts interminables à déployer pour désherber notre jardin. Et ensuite, nous lisons dans In Heavenly Places, à la page 160, paragraphe 1 à 5, ce par quoi j'aimerais terminer aujourd'hui. Et ici, la sœur White, l'esprit de prophétie, commence par ce passage de Romains chapitre 8, versets 6 à 7, que j'ai pensé bon de mentionner, où elle dit ceci, où la parole de Dieu nous dit ceci, et vous allez voir, c'est lié à ce qu'elle dit par la suite. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Maintenant, notez bien comment l'esprit de prophétie applique ce passage et ce qu'il dit en commentaire. L'esprit naturel est porté vers le plaisir et la satisfaction personnelle. Et Satan entend produire une abondance de ses plaisirs. Il cherche à remplir l'esprit des hommes d'un désir de divertissement mondain, afin qu'il n'ait pas le temps de se poser la question « Comment va mon âme ?» Afin qu'il n'ait pas le temps, juste le temps. Si nous n'avons pas le temps de nous poser cette question fatidique sur la santé de notre âme, c'est tout ce que le diable désire accomplir. Vous comprenez ? C'est pour cela que si nous multiplions les choses qui peuvent être utiles, mais que nous n'avons aucune tempérance, toutes ces choses vont absorber le temps qui nous est nécessaire de consacrer à Dieu afin de pouvoir savoir quelle est la santé de notre âme et pouvoir au nourrissement de notre âme, à la nutrition de notre âme. Je continue. L'amour du plaisir est contagieux. Livré à lui, c'est-à-dire livré au plaisir, l'esprit se précipite d'un objet à l'autre, toujours à la recherche de quelques distractions. L'obéissance à la loi de Dieu s'oppose à ce penchant et construit des barrières contre l'impiété. Qu'est-ce que c'est? L'obéissance à la loi de Dieu, qui nous est inculquée par la parole de Dieu, elle s'oppose à ce penchant naturel de notre esprit naturel vers le plaisir et la satisfaction personnelle. Le diable sait que c'est notre propension naturelle et donc il cherche à, il entend produire une abondance de ses plaisirs. Est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une abondance de ces plaisirs pour lesquels l'esprit naturel est naturellement porté et enclin à désirer et à se remplir de ces choses? Le diable cherche à remplir l'esprit des hommes d'un désir de divertissement mondain afin qu'il n'ait pas le temps de se poser la question « Comment va mon âme ?» Je poursuis. Notre capacité à jouir des richesses de la gloire se développera en proportion du désir que nous avons pour ces richesses. Mais alors, notez bien ici. Comment est-ce que nous allons développer un désir pour les richesses spirituelles et célestes si nous sommes constamment en train de nous nourrir des choses mondaines? Vous voyez? Donc on ne va pas développer ce désir. Le désir ne va pas croître, il va diminuer. Je continue. Comment développer une appréciation de Dieu et des choses célestes si ce n'est dans cette vie? Si nous laissons les revendications et les soucis du monde absorber tout notre temps et toute notre attention, nos forces spirituelles s'affaiblissent et meurent par manque d'exercice. Elles meurent. Dans un esprit entièrement tourné vers les choses terrestres, chaque ouverture par laquelle la lumière du ciel pourrait entrer est fermée. La grâce transformatrice de Dieu ne peut être ressentie sur l'esprit ou sur le caractère. Imaginez-vous, c'est ce dont je parlais ici, la question de l'Esprit de Dieu. Si notre esprit est entièrement tourné vers les choses terrestres, que notre attention est entièrement accaparée par ces choses, les passions pour les autres choses, cette ivrognerie, cet esprit d'assoupissement, même nous ne ressentirons même pas sur notre esprit ou notre caractère la grâce transformatrice de Dieu, à savoir le Saint-Esprit en nous. Christ en nous. Christ ne sera pas en nous. Christ ne sera que dans nos formes. Nous aurons la forme de la religion, mais en nous, il n'y a plus du tout la force. Pourquoi? Simplement parce que tout notre temps a été accaparé par les choses que le diable entend produire en abondance, afin que nous n'ayons pas le temps de nous poser la question « Comment va mon âme ?» Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes arrêté et vous dites « Comment va mon âme ? Comment je vais spirituellement, Seigneur ?» Nous n'avons même pas le temps, frères et sœurs. Ça, c'est un signe que cette génération est la dernière. Mais ce n'est pas suffisant de dire que c'est la dernière. Simplement, nous voyons et cela nous est donné afin de réaliser notre besoin de véritablement avoir Dieu comme notre priorité de telle sorte que nous n'allons pas nous adonner à des choses qui vont étouffer en nous, dans notre jardin, le jardin de notre cœur, la parole de Dieu. Je poursuis. Nous vivons au milieu des périls des derniers jours et nous devons surveiller toutes les avenues par lesquelles Satan peut s'approcher de nous pour nous tenter. Toutes les avenues. L'ouïe, la vue, le toucher, le goûter et j'ai dû en rater une, excusez-moi, l'odorat. Mais aujourd'hui, c'est surtout ce que nous voyons, ce que nous entendons. Alors bien entendu, si le diable peut nous faire tomber par l'intempérance, ce sera le goûter. Mais vraiment, je tiens à insister sur la vue et l'ouïe. Toutes les avenues par lesquelles Satan peut s'approcher de nous pour nous tenter. Le simple fait, Cela parle de ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ce peuple qui vient à Dieu, qui honore Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Le simple fait d'accepter la vérité ne sauvera jamais une âme de la mort. Nous devons être sanctifiés par la vérité. Il nous faut vaincre chaque défaut de caractère, ou bien ceci, nous vaincrons et deviendrons une force dirigeante pour le mal. C'est comme si vous laissez une mauvaise herbe et elle a une faculté de croissance impressionnante. Si vous ne l'arrachez pas, elle va prendre le dessus sur tout. Alors, dans votre jardin, peut-être que vous ne verrez jamais une illustration de cette réalité. Mais il y a des plantes, si vous les laissez croître, j'en ai ici, d'ailleurs j'en ai arraché il n'y a pas si longtemps, si vous les laissez croître, elles produisent tellement de graines que si vous les laissez cette année, l'an prochain, il y en aura partout dans votre champ. Et ensuite, il faudra les arracher. Et donc, c'est précisément de cela dont Dieu parle. Un seul défaut, si nous le laissons prendre le dessus dans notre caractère, nous vaincra et deviendra une force dirigeante pour le mal. C'est pour ça d'ailleurs que l'esprit de prophétie nous dit qu'il nous faut vaincre chaque défaut de caractère. Que nous dit Jésus, le témoignage de Jésus? Commencez sans tarder à arracher chaque mauvaise herbe du jardin de votre cœur. Et par la grâce de Christ, ne laissez y pousser que des plantes qui porteront des fruits pour la vie éternelle. Hein? Quand vous allez dans votre jardin et vous vous dites, ah, vous avez quelqu'un qui est cher à votre cœur, vous voyez votre jardin, vous dites, oh là là, là il y a beaucoup de mauvaises herbes, je vais prendre soin de mon jardin parce que je veux que quand cette personne qui m'est chère vienne, elle puisse voir que mon jardin est en... J'en ai pris soin, je ne l'ai pas abandonné, de toute façon qu'elle va venir, elle va dire, c'est quoi, tu prends même pas soin de ton jardin et maintenant c'est mon jardin, vous voyez? Et c'est la même chose avec notre cœur. Nous venons là, nous disons, oui Jésus, tu vas bientôt venir, si tant est que nous le disons ou que nous le pensions. Et ensuite, le jardin de notre cœur, il est plein de mauvaises herbes, c'est une horreur à regarder. Et nous allons donner ça à Jésus. Jésus, il va dire, tu n'as même pas pris soin de ton jardin, regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener ce jardin dans mon jardin, après avec toutes les mauvaises herbes, c'est pas possible. Donc nous avons besoin, comme nous avons vu dans notre école du sabbat aujourd'hui, nous avons besoin d'obtenir une capacité à demeurer dans le ciel. Et afin de faire cela, il nous faut arracher tous les défauts de caractère qui se sont enracinés dans nos habitudes. Et je termine par ce dernier paragraphe qui nous dit ceci. Cultivez tout ce qui, dans votre caractère, est en harmonie avec le caractère de Christ. Chérissez les choses qui sont véritables, honnêtes, justes, pures, aimable et de bonne réputation. Mais écartez tout ce qui n'est pas conforme à notre Rédempteur. Tout homme qui veut obtenir la vie éternelle doit devenir semblable à Christ, c'est-à-dire saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Voilà, frères et sœurs, le haut appel, pourrait-on dire, la vocation céleste qui nous est confié ici et donné à cultiver en nous tout ce qui est en harmonie avec le caractère de Jésus, à chérir toutes ces bonnes plantes, toutes les choses qui sont véritables, honnêtes, justes, pures, aimables, de bonne réputation. Si nous faisons cela, tout en arrachant, écartant tout ce qui n'est pas conforme à Christ, eh bien, nous nous assurons que non seulement notre potager, mais le jardin de notre propre cœur sera dans une condition que nous pouvons y venir et Jésus peut y venir et ne pas être rougir de la condition spirituelle de notre jardin. Donc il s'agit bel et bien des semailles et du désherbage. La parole de Dieu doit être semée en nous. Nous devons nous assurer et endosser cette responsabilité à nous nourrir des choses qui vont alimenter notre âme, hein, à prendre le temps de savoir quelle est la santé de notre âme. Et ensuite, il nous faut combattre contre les mauvaises habitudes, déraciner celles qui sont déjà enracinées et éviter de semer celles qui n'ont pas encore été semées. On voit vraiment, frères et sœurs, à travers cette méditation, quelle est vraiment la vocation de Dieu vis-à-vis du jardin de notre cœur, puisse Dieu vous bénir, puisse le Seigneur nous accorder cette inspiration pour construire notre caractère, cette inspiration pour entretenir le jardin de notre cœur et que Dieu puisse réellement y venir, et Dieu puisse réellement le garder et que Dieu puisse finalement l'importer dans le ciel et l'incorporer à son grand jardin. Le ciel est un jardin composé de millions de différentes fleurs, les anges, les êtres des autres mondes qui ne sont jamais tombés dans le péché. Toutes ces personnes-là constituent le jardin gigantesque de Dieu dans le ciel. Puissions-nous, frères et sœurs, nous préparer à joindre ce grand jardin. Que Dieu vous bénisse et en vous souhaitant une bonne fin de sabbat. À très bientôt. Amen.